Oui, bonjour Eric, en Ardèche. Ben voilà, j'appelle suite à l'annonce concernant les chants ouvriers. C'était pour parler d'un chant qui avait été mis en place par la chorale des ouvriers de Trieux. Trieux, c'est dans le bassin minier lorrain, dans le haut pays lorrain. C'était le chant de la corporation. C'est un chant qui a été enregistré au fond de la mine en 1963. Les mineurs avaient occupé le fond 79 jours. Donc voilà, un bref extrait. Mon père était de cela.
C'était hier le meeting des mineurs, rassemblement de tous ces braves gens. Ils sont venus de toute la Lorraine pour protester contre les licenciements. Ils sont venus de toute la Lorraine pour protester contre les licenciements.
Voilà, petit extrait, donc c'est disponible assez facilement, CGT, mine de Lorraine, mine de fer. Merci pour vos émissions et bonne continuation. Au revoir.
Bonjour, vous êtes tous conviés au réveillon du 1er mai, qui aura lieu ce vendredi 30 avril au Voûte à Paris. Ce sera l'occasion de mettre à l'honneur différents débats sur le travail dans un contexte où il devient de plus en plus difficile de travailler, que l'on ait un emploi ou pas. Ce soir, en plus des débats, vous attendent entre autres une expo et un film intitulé « À la sueur de ton front » qui débutera à 18h30. Pour le côté festif, n'oubliez pas d'apporter votre tambouille pour le repas de rue où vous pourrez en prime écouter des groupes de musique avec des chansons rock, révoltantes, populaires, des chansons à moustache même, avec Riton, la manivelle et son orgue de barbarie. Il y aura même des DJ de musique électronique. Bref, en résumé, ouvrons le débat, désacralisons le travail pour nous le réapproprier et pour réfléchir et débattre ensemble, venez participer au réveillon du 1er mai. C'est le 30 avril au Voûte, en face des frigos, face au 11 quai François Mauriac, dans le 13e à Paris. Métro, bibliothèque François Mitterrand, de 18h30 à minuit. Pour le site internet, c'est www.travaillerpourquoi.org, www.travaillerpourquoi.org. Merci et à ce soir. Au revoir.
Voilà, bah nous, ça va pas être à ce soir, ça va être tout de suite. Ça va être à peu près ce à quoi nous convie cette auditrice jusqu'à 18h. Là-bas, si j'y suis, chant de 1er mai, mémoire ouvrière, mémoire de lutte, mémoire du travail aussi. Hein, tout ça, ça a commencé avec la lutte pour la journée de 8h. On va évoquer tout ça à travers des chansons. Il y a eu énormément de chansons, d'hymnes, de toutes sortes, dans tous les sens, d'hier et d'aujourd'hui auparavant. D'autres messages, des messages sur le répondeur de la basse, si j'y suis, notamment suite, évidemment, à l'émission d'hier.
Salut, je voulais juste dire merci pour l'émission sur le Fakir. J'apprécie beaucoup leur travail. J'étais contente que vous donniez la parole à cette presse qui se bat, surtout sur Amiens, contre les mésins de Robien et Coyer Picard. Donc je dis longue vie au Fakir, longue vie à votre émission qui nous permet de connaître les manipulations dont nous sommes victimes au quotidien. Et un petit au revoir sympathique à Monsieur Marcel et bah, bientôt Isabelle, habitante d'Amiens. Au revoir.
Bonjour Daniel, Olivier, je vous appelle de Guadeloupe. J'aimerais réagir sur le sujet d'aujourd'hui du journal Fakir, auquel l'adjoint de Gilles Robien a fait un procès. Ce monsieur se permet de dire que la presse qui dénonce ses petites magouilles et connivences met en danger la démocratie et fait le jeu du FN en jetant le discrédit sur les politiques. Pour ma part, je pense que c'est une grosse erreur d'interprétation. Ce monsieur se trompe lourdement sur les causes et les conséquences. Il me semble plutôt que ce sont les politiques qui commettent toutes ces magouilles qui mettent en danger la démocratie. Ce sont plutôt ceux qui s'en servent à leur usage personnel ou corporatiste. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous envoie toutes mes salutations les plus chaleureuses des Caraïbes. Au revoir.
Oui, bonjour, je viens d'entendre votre émission concernant le journal Fakir d'Amiens. Je suis la directrice de publication du Torchi à Strasbourg, qui est exactement le même journal. Et nous avons eu les mêmes problèmes avec le maire de Strasbourg, etc., etc. Et il y a beaucoup à dire sur la justice et du maire de Strasbourg concernant nos affaires. Au revoir, merci.
Monsieur Mermet, bonjour. Nous avons eu droit hier dans votre émission sur le journaliste d'Amiens un parfait exemple de ce qu'on appelle la presse d'opinion, en l'occurrence celle d'extrême gauche. Pour cette presse, tout événement est utilisé pour démontrer l'oppression du capitalisme sur la classe ouvrière et justifier le retour à la lutte des classes. Le seul fait que le courrier Picard soit dirigé par des gens proches de M. de Robien constituait en fait pour ce journaliste une tare indélébile. Et pourtant, on sait ce qu'il en est de la liberté de la presse dans les pays communistes et autres dictatures de gauche, Cuba, Corée du Nord, etc. Hélas, le jour où les gens d'extrême gauche dirigeront le pays, on verra ce qu'il en restera de la tolérance envers les opinions contraires. Et malheureusement, je ne souhaite pas que ce jour-là arrive pour la liberté en général dans notre pays. Merci, au revoir.
Voilà, j'apprends par la presse là, qu'on se bouscule à la porte de la Maison Ronde, enfin plutôt sur le fauteuil encore tiède et un peu avachi du président Cavada. Alors moi, ce que je te propose, et je crois que je ne serai pas le seul à te le proposer, c'est que tu te portes candidat, Daniel, à ce fauteuil de président de Radio France, ce fauteuil prestigieux, où tu pourrais représenter, comme ils disent, la France d'en bas, et enfin la France de ceux qui se laissent pas faire. Et je pense que ça serait merveilleux que tu puisses être candidat, et en particulier en face de quelqu'un comme Laure Adler, qui a viré Miguel Benassayag, etc. Bon, ça serait quand même très très bien, quoi. Moi, je pense qu'il faut que tu fasses ce pas-là et que je pense que qu'on va faire un comité de soutien et que tu vas y arriver, tu vas être président de Radio France. La campagne s'engage maintenant, il faut que Mermet soit président de Radio France. Voilà, c'était Jean-Marie de Douarnenez. À propos de Douarnenez, je veux juste un petit appel d'attaque Douarnenez qui organise ce 1er mai, là, demain, la projection du film Attention danger travail. À Douarnenez, on a décidé de faire la fête au travail, donc on passe le film de Pierre Carle et de ses amis Stéphane Gox et Christophe Coelho, Attention danger travail, au cinéma Le Club, à 20h30, après la manif. Venez donc, si vous êtes du côté de Quimper Douarnenez, voir ce merveilleux film. Allez, salut Daniel, et puis alors surtout, n'oublie pas, sois candidat à Radio France.
C'est curieux parce que j'ai sélectionné ce message de cet auditeur en pensant que c'était une très très bonne idée. Je me vois assez bien en président de Radio France avec ma voiture de fonction, mon logement de fonction, mon cigare, mes notes de frais, etc. Et ça me plairait effectivement. Et ben tout le monde a rigolé derrière la vitre, les techniciens, réalisateurs, assistants, amis qui viennent nous voir aujourd'hui se marrent et je me demande bien pourquoi.
Bonjour Daniel, c'est Liliane dans le Val-de-Marne. J'ai entendu hier à la radio parler de la collection de surréalisme de Daniel Philippe Aki, celui qui avait créé avec Franck Thénault, Salut les copains, c'est ma génération. Donc il y avait un bouquin qui a, paraît-il, été écrit par Blaise Landrard, mais signé de la main droite exceptionnelle, parce que le pauvre, il l'a perdu à la main, à la guerre de 14, donc les autres ont été signés de la main gauche. Alors le type s'extasiait de ce livre, bon il est certainement très beau, ça j'en dis ce qu'on vient pas, mise à prix chez Christie's à partir de 180 000, et là j'ai une revue, petites affiches, une revue professionnelle, effectivement on en demande 180 000 à 220 000 euros. 180 000 euros, ça fait à peu près, mon fils peut rester étudier pendant au moins 13 ans, loyer payé, électricité, etc. Alors tous les gens qui ont vraiment de gros problèmes, et Dieu sait s'il y en a, moi je trouve ça scandaleux. C'est bien que Daniel Philippe Aki, c'est pas lui personnellement, on est d'accord, mais qu'on puisse en 2004, avec tous les problèmes qu'il y a partout, des gens qui crèvent de faim ou qui ont vraiment du mal, mettre à prix un bouquin et qu'il y ait des gens qui achètent ça et qui puissent l'acheter, moi ça me dépasse. Chacun doit gagner sa vie, c'est normal qu'on la gagne mieux que d'autres si on fait des efforts, si on est... Enfin bon, on ne peut pas discuter là-dessus pendant des heures. Mais là, franchement, puis bon, si avec ce bouquin... Allez, au revoir, c'était juste un petit coup de gueule, là, je sais pas quelle heure il est ce matin, au revoir.
Bonjour Daniel, ici Brigitte de l'hôpital de Sainte-Afrique. Nous sommes à nouveau sous le viaduc de Millau, toujours accompagné de nombreux amis et usagers, associations, syndicats. On est 200 environ. En soutien à nos médecins, nos élus et représentants de la société civile, qui ont été invités par le ministre Monsieur Douste Blasi à 14h30. Nous espérons beaucoup de cet entretien, de l'occupation du viaduc de Millau. Voilà, nous y sommes depuis ce matin à 10h. À bientôt pour la suite. Au revoir.
Bonjour, ici Céline de Bordeaux et je voulais vous faire part en fait d'une petite manifestation qui se passe à Bordeaux, à Saint-Michel, exactement le 1er mai à 15h. Et elle a pour titre la fête de la paresse. Voilà. Au revoir.
Richard du collectif Service Public Solidaire du 18e, nous sommes un collectif d'habitants, de salariés du privé et du public. Et nous sommes réunis depuis janvier 2003 afin de créer donc un collectif unitaire qui s'oppose à la domination du marché et plutôt en faveur d'un espace public solidaire. Tourner vers les citoyens et en particulier les plus défavorisés. Donc si demain vous n'avez pas le projet d'aller cueillir du muguet sous la feuillée, eh bien nous proposons de nous rejoindre à 14h devant la mairie du 18e afin de montrer notre désaccord face à la remise en cause de nos droits sociaux les plus élémentaires. À demain.
Bonjour, c'est Françoise de Pau. C'est un petit coup de gueule qui n'a pas grand-chose à voir avec les émissions diffusées actuellement par toi, Daniel, mais dont tu pourrais te servir parce que je suis une adepte de la ferme de TF1 que je suis régulièrement à travers les narrations de Guy Carlier, ton collègue de France Inter, et je voulais pousser effectivement un petit coup de gueule parce que je suis outrée de voir la manière dont on traite le milieu paysan, le milieu rural. C'est absolument dégradant, affligeant. Nous sommes tous issus de la paysannerie française et je trouve que vraiment se foutre du monde comme ça, c'est dégradant, rabaissant pour une grande partie de la population française. Et moi, j'attends avec impatience de voir les journalistes, si l'on peut encore les qualifier de journalistes de TF1, filmés 24 heures sur 24 dans leur environnement. Allez, salut.
Mais voilà, moi je voulais juste passer un petit message pour dire que je suis tout à fait d'accord avec le mouvement que démarre la Confédération Paysanne contre cette émission pourrie de TF1. Et je trouve d'ailleurs d'autant plus étonnant l'absence et le silence d'organisations qu'on a connues beaucoup plus viriles. Je pense à la FNSEA qui n'hésitait pas à aller saccager le bureau d'un ministre, mais enfin c'est vrai qu'il s'agissait d'une femme. Je pense à Chasse-Pêche Nature et Tradition qui n'hésitait pas à casser la gueule à Alain Bougrain-Dubourg, mais bon c'est vrai qu'il dérangeait un peu leur petit business. Enfin voilà, j'ai l'impression que ces braves gens qu'on a connus assez virulents, d'un seul coup s'il s'agissait de gueuler contre TF1, qui produit quand même une émission qui est une insulte à la ruralité et au monde agricole, enfin ces grands gaillards, d'un seul coup ils ont des vapeurs. Bon, mais peut-être que c'est parce que, en fait, ils sont très sensibles. Enfin, c'est assez instructif. Voilà, ciao.
C'est une invitation pour tous les rebelles de la culpabilisation ou de la résignation, tous ceux qui n'arrivent pas à dire d'accord, c'est le progrès, on va y aller. À tous ceux-là, on leur donne un rendez-vous au forum social local à Colombelles. Ça commence samedi midi par un pique-nique ensemble après la manif et ça se termine dimanche soir. Et entre deux, bien les 35 organisations qui sont autour de ce projet proposeront 10 ateliers avec des débats et des actions à élaborer ensemble, à construire pour que ça change un peu dans notre jolie région. Ces ateliers, il y a politique sécuritaire, santé, sécurité sociale, c'est d'actualité, l'Europe aussi, les 44 propositions du MEDEF, le logement social, les médias, le service public et la GCS, ou plutôt les services publics et la GCS contre les services publics, les femmes, l'éducation populaire et toutes les solidarités internationales. Alors, si vous avez envie de refaire le monde et si vous croyez vraiment que ce soit possible, eh bien, rendez-vous tous samedi et dimanche. Au revoir.
En raison de la grève d'une certaine catégorie du personnel, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer nos programmes habituels. Et c'est tant mieux.
Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les fortes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. La tour Eiffel, la chaupier, l'arc de triomphe est renversée. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Toutes les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans Dieu, sans maître, auto-gestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures, et nous n'aurons jamais
salut, c'est Daniel Mermet et son orchestre 1er mai.
Flight number 2, arriving from New York.
Étant donné qu'on est en grève, on a décidé de faire semblant de travailler.
Allô, allô, ici Printemps. Mes chers amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre grand et très sympathique comique, j'ai dit Champy.
Ça va, non, un peu, ça marche, puis après, dis donc. Dites, c'est la troisième fois qu'on recommence, alors. Dites, écoutez, on va chanter la grève du printemps, ça boum. Alors écoutez, ceux qui chantent faux, mettez-les en veilleuse. Alors on commence par le refrain, comme d'habitude. Alors, un, deux, trois, les... Les jours allaient vite à passer. Je me suis trompé, mais ça ne fait rien. Le cœur bercé d'un doux entrain. Et quand enfin arrivait l'heure de repartir, on se disait, venez demain à la même heure. Comme on dansait, comme on riait. Les jours allaient vite.
Thank you.
les patrons, vous avez vu, tout à l'heure, je me suis gouré, moi. Mais je m'en fous, j'ai pas arrêté. On va refaire leur point, c'est le plus beau. Allez. Les jours de la vie, patrons, écoutons le chant de ton nom.
Oui, c'était des beaux jours. C'était des beaux jours. C'était en 1936. Ce beau dimanche de printemps, c'était au magasin du printemps. C'était les ouvriers, les ouvrières, les vendeurs, les vendeuses et les caissières du rayon nouveauté du magasin du printemps qui chantaient avec ce comique de l'époque, le fantaisiste Champy, qui était venu encourager les ouvriers, les ouvrières qui occupaient les magasins. Ils étaient 2 millions en 1936, en ce début mai 1936, à s'être mis en grève, au-delà même de ce qu'avaient espéré les politiques et leurs syndicats. Ils en voulaient plus, ils en voulaient moins de quoi ? Moins de travail. Ce qu'on fête ce jour du 1er mai, c'est un triangle. C'est un triangle rouge, le fameux triangle rouge. Qu'est-ce que c'était ce triangle rouge ? Eh bien, un triangle rouge, ça a trois côtés. Et ces trois côtés voulaient dire 3 x 8. 3 x 8 heures. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de repos. 8 heures pour vivre, 8 heures pour, 8 heures pour aimer, 8 heures pour élever les enfants, 8 heures pour s'éduquer. C'était ça la revendication. Et aujourd'hui, vous savez quoi? Enfin, demain, plutôt le 1er mai, et depuis qu'il y a des 1er mai chez nous, c'est-à-dire depuis 1890, eh bien, ce jour-là, nous sommes tous américains. Oui, tous américains. Parce que ce sont les américains qui ont inventé le 1er mai. Tout à fait. C'était une revendication où des ouvriers américains, cette journée de 8 heures. Et il a fallu qu'à Chicago, en 1886, lors d'une grève mémorable, la police tire sur les ouvriers syndiqués, sur les ouvriers en grève. Et le 3 mai, cette manifestation a fait 3 morts parmi les grévistes de la société McCormick Harvester à Chicago. Et il y a une immense marche de protestation le lendemain. Et dans la soirée, tandis que la manifestation se disperse à Haymarket Square, il ne reste plus que 200 manifestants face à autant de policiers. Alors, une bombe explose devant les forces de l'ordre. Elle fait une quinzaine de morts dans les rangs de la police. 3 syndicalistes anarchistes sont jugés et condamnés à la prison à perpétuité. 5 autres seront pendus le 11 novembre 1886, malgré des preuves incertaines. Et aujourd'hui, toujours, sur une stèle du cimetière de Waldheim à Chicago, sont inscrites les dernières paroles de l'un des condamnés, Augustin Spies, qui a écrit ceci. Le jour viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui.
Renaud Villevorde, les chantiers navals du Havre de la Ciotat, Adelsofen, Célatex, Michelin, Epeda, Ludanode, Spencer, les chaussures Bata, Levis, Giat Industries, Air Lib, Prince Aviation, Daewoo, Alcatel, EADS Aéronautique, Avantis, ACT, Matra, Grimaud Logistique, Alstom Saint-Ouen, Béguesset, Péchiné, France Télécom, Orangina, Nantes, Testou, Palace Parfum, Métalleur,
Il a refermé la porte
Pour pas réveiller maman.
Il a jeté l'humain
Sur le canapé
près du chat.
Il s'est assis dans un coin,
la tête dans ses mains.
Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de sa gamelle, de sa gapette? C'est toute sa vie qui était dans sa musette. Il voit toutes ses années au chagrin et tout le cambouis sur ses mains. Il pense à son gars qui voulait faire péter tout ça. Ça pétait sans lui, sans douleur et sans cri. Où c'est que t'as vu un bon Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de ses bras de travailleur? C'est toute sa vie qui était dans sa sueur. Pourquoi il pense aujourd'hui au petit, v'là 10 ans qu'il est parti? Salut pauvre cave, tu seras toujours un esclave. Et ben tu vois gamin, aujourd'hui je suis plus rien. Pas fini se faire des cheveux, qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de son drapeau, de son Lénine? C'est toute sa vie qui était dans sa machine. Il va réveiller maman, peut-être.
Il va réveiller maman,
peut-être. Lui dire toujours pas de lettres.
Lui dire toujours pas de lettres.
Il reviendra.
Il reviendra.
Il pense à nous,
dans
t'en fais pas.
Dans la guérilla.
Dans la
là-bas,
guérilla.
Au Nicaragua.
Au Nicaragua. Mère aux hommes et mère d'adieu, il dit en raccrochant son bleu. Mon enfant a compris mieux que moi le bonheur,
le bonheur
de faire péter tout ça.
We're brave and gallant miner boys who work in underground. For courage and good nature no finer can be found. We work both late and early and get but little pay to support our wives and children in free America. If Satan took the blacklegs, I'm sure 'twould be no sin. What peace and happiness 'twould be for us poor working men. 8 hours we'd have for working, 8 hours we'd have for play, 8 hours we'd have for sleeping in free America.
Voilà, clin d'œil aux ouvriers américains, au syndicalisme américain à travers cette chanson interprétée par Pete Seeger. Et avant, c'était Joli Môme, c'est Joli Môme qui interprétait la chanson de Renaud. Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu? Ces chansons en disent long, en disent très très long, témoignent de l'histoire, parfois créent l'histoire, l'accompagnent très souvent, sont les révélateurs, les miroirs. Et je disais que le 1er mai, ce jour du 1er mai, nous sommes tous américains, et c'est vrai, clin d'œil à Pete Seeger, c'est vrai que le 1er mai a été inventé là-bas, si on peut dire, et puis il est arrivé en France, 1890, 1891, ça a été fourmi. Fourmi, ça, c'est quelque chose évidemment qui s'éloigne dans les mémoires, 1891. Mais ça a été très très longtemps quelque chose de tatoué véritablement dans la mémoire populaire, dans la mémoire ouvrière de cette petite ville du nord de la France où une manifestation pacifique se rendait en cortège à la mairie et la troupe, là c'était carrément la troupe, c'était pas seulement les flics, c'était la troupe qui était équipée de tout nouveau
nouveaux fusils Lebel, 1891, fusils Lebel et des chasse-pots, qui tiraient à 2 kilomètres, eh ben, ils se sont dit qu'ils allaient essayer ces beaux fusils tout neufs, et ils ont tiré dans la foule, ils ont tiré dans le tas. 8 victimes, qui avaient moins de 21 ans, dont la jeune ouvrière Marie Blondeau. C'est des noms qu'il faut répéter. Marie Blondeau et un jeune conscrit qui s'appelait Édouard Gilotto. Ils ont été chacun habillés de blanc. Et Marie Blondeau, avec ses couvertes de fleurs, est restée longtemps dans l'imagerie populaire comme une sorte de vierge profane. Et c'est vrai que dans ces manifestations du 1er mai, il y a un empilement de mémoire, il y a une archéologie de la mémoire, des rites et des traditions, le mois de mai, c'est le printemps. D'ailleurs, il y a toute une lutte entre le symbole du muguet et l'églantine. L'églantine était le symbole des mouvements ouvriers. On a oublié le triangle rouge que j'évoquais aussi, aujourd'hui c'est des symboles, mais il y a des gens qui sont morts pour le triangle rouge et pour l'églantine, pour avoir arboré que voulaient-ils ces gens, ces terribles subversifs, ces énergumènes, ces salopards en casquette, comme on dira en 1936, je le disais. Ils voulaient travailler seulement 8 heures, ils voulaient du repos, ils voulaient, enfin, bon, on connaît bien ces luttes, ces espoirs, ces combats, ces défaites, ces retours. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, à la veille de ce 1er mai. Alors, comme chaque année, on dit que ça va être un 1er mai, un petit 1er mai. Il y a des crus différents. Le 1er mai a été récupéré dans des tas de directions différentes. Pour les anards, les anciens anards, c'était les 8 heures, mais pour les nouveaux anards, ça a été non au travail, ne travaillez jamais, disait Debord. Et puis ça a été récupéré aussi par Pétain, par exemple, pour ce qui nous concerne dans notre pays. Pétain, en 1941, a fait de la fête des travailleurs la fête du travail. Ça a été récupéré dans tous les sens, et ça a été une fête internationale. Le premier souci des instigateurs de cette fête des travailleurs a été l'internationalisation des causes et des luttes. Les altermondialistes n'ont absolument rien inventé. Ils sont les enfants, les petits-enfants, parfois oublieux de cette histoire-là. Je disais qu'on a toujours essayé de minimiser l'importance des manifestations du 1er mai, et j'ai sous les yeux des documents rassemblés par Miguel Rodriguez dans un livre très intéressant qui s'appelle Le 1er mai, et où il a noté ce qu'un journal qui s'appelait Le Matin, tout au long des années 1930, disait du 1er mai, les titres au lendemain pour eux. Alors, 1931, un 1er mai des plus calmes. 1932, le 1er mai syndicaliste a été fort calme, on a même pu prendre des taxis. 1933, le 1er mai à Paris, peu de chômage, quelques bagarres. 1934, un 1er mai calme et sans enthousiasme. 1935, un 1er mai sans histoire, un peu de soleil, beaucoup de muguet et pas du tout d'incident. 1936, un 1er mai pacifique en France. 1937, 1er mai ensoleillé et calme. Regardez la presse demain.
C'était hier, samedi, jour de paye, et le soleil se levait sur nos fronts. J'avais déjà vidé plus d'une bouteille, si bien que je m'avais jamais trouvé si rond. V'là la bourgeoise qui rapplique devant le zinc, feignant, elle dit, t'as donc lâché le turban. Ouais que je réponds, car je vais au métal, au grand métal du métropolitain. Ouais que je réponds, car je vais au métal, au grand métal du métropolitain. Les citoyens, dans un élan sublime, étaient venus, guidés par la raison. À l'entrée, on donnait 25 centimes pour soutenir les grèves de Vierzon. Bref, à part quatre municipaux qui schlinguent et trois sergots déguisés en Pékin, j'ai jamais vu de plus chouette métingue que le métingue du métropolitain. J'ai jamais vu de plus chouette métingue que le métingue du métropolitain. Il y avait Basli, le mineur indomptable, Camélina, l'orgueil du parti. Ils ont grimpé tous deux sur une table pour mettre la question sur le tapis. Mais tout à coup, on a entendu Bastingue, c'est un mouchard qui veut faire le malin. Il est venu pour troubler le bétingue, le grand bétingue du métropolitain. Il est venu pour troubler le bétingue, le grand bétingue du métropolitain. Moi je tombe dessus et pendant qu'il proteste, d'un grand coup de poing je lui renfonce son chapeau. Il déguerpit sans demander son reste en faisant signe aux quatre municipaux. À la faveur de ce que j'étais brinzingue, on m'a collé jusqu'au poste voisin. Et c'est ainsi qu'a fini le métingue, le grand métingue du métropolitain. Et c'est ainsi qu'a fini le métingue, le grand métingue du métropolitain. Peuple français, la Bastille est détruite, mais y a encore des cachots pour tes fils. Souviens-toi des géants de 48 qui étaient plus grands sur le jour d'aujourd'hui. Mais c'est toujours le pauvre verrier qui trinque, même qu'on le fourre au violon pour un rien. C'est pourtant lui qui fait tourner le bastringue, le grand bastringue du métropolitain. C'est pourtant lui qui fait tourner le bastringue, le grand bastringue du métropolitain. Le grand bastingue du métropolitain.
Canta, garganta, si eres cabal, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Canta, garganta, si eres cabal, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Ya las herramientas, metalúrgico tornero. Los ladrones andan sueltos y detienen al obrero. Los ministros del gobierno, contemplando el capital, se olvidaron de la fuerza del obrero del metal. Mucha cadena, poco jornal, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Poca justicia, mucho penal, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Que no vuelva a repicar el martillo calderero. Que Durruti está en la cárcel por luchar contra el dinero. El señor Don Miguel Maura piensa poco y piensa mal, y por eso se ha topado con la huelga del metal. Ahí va un aviso y es oficial, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Esta es la huelga y es general, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Fuera aretas de carnaval, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. ¡Viva la FAI! ¡Viva el metal! O liberan a Durruti o se quedan sin metal.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano,
l'anno della libertà.
E questo è il fiore del partigiano, morto.
Voilà, 1er mai en Italie, en Espagne, avec cette ode à Durruti. Et alors, il y a une pérennité des revendications. Chaque année, la police notait et note toujours les slogans, les pancartes, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qu'on revendique, évidemment. Chaque année, c'est très important. Alors, voilà une revendication, un champ de revendication. Ancien, je ne sais pas très bien la date, je pense que ça date du début du siècle, ou des années, ou juste autour de la Première Guerre mondiale, et c'est quelque chose qu'on aurait pu chanter il y a très peu de temps.
Que l'on impose les très grandes richesses, ceux qui possèdent des châteaux, des palais, ceux dont la vie n'est faite que d'allégresse, sans nul souci, ne travaillant jamais. Que l'on impose les archimillionnaires, mais que désormais on laisse à l'ouvrier intégralement l'argent de son salaire, pour qu'il n'y ait plus de misère à son foyer. Au lieu d'imposer le travailleur qui gagne le pain de ses enfants, imposez plutôt les noceurs qui gaspillent tant d'argent. Oh oui, la loi qu'il fallait faire, je vous le dis, messieurs du Parlement, c'est pas l'impôt sur les salaires, mais c'est l'impôt sur les pignons. Vous qui voulez qu'on repeuple la France, n'écrasez pas par de nouveaux impôts le travailleur, car alors sa conscience se révolterait contre tous ses bourreaux. Ce que le père peut gagner à l'usine, ça c'est sacré, messieurs, n'y touchez pas. Oui, votre impôt, c'est la peau de la famine, et cette loi, Marianne, fiche la rentable. Au lieu d'imposer le travailleur qui enrichit le gouvernement, imposez plutôt les noceurs et qui le fait pour les pauvres gens. Oh oui, la loi qu'il fallait faire, je vous le dis, messieurs du Parlement, c'est pas la peau sur les salaires, mais c'est la peau sur les...
C'était l'année dernière, mais c'était aussi le slogan qu'on devait entendre il y a un siècle et plus. Je parlais d'internationalisme, de l'international. Il faudra bien quand même qu'on en passe par l'international aujourd'hui, à la veille de ce 1er mai. Je parlais d'altermondialiste. Et là, on a trouvé un document qu'on avait entendu accidentellement sur France Culture dans l'émission de Jeannonet le samedi matin. Et il y a toujours des petits bijoux dans cette émission. Et là, on a mis du temps pour retrouver ce document. C'est une chanson d'Ouvrard qui date de 1930 et qui s'appelle l'internationalisation, entre l'international et les altermondialistes d'aujourd'hui. Ouvrard.
Quand pendant que les as de la France perdent leur temps un peu partout, dans les congrès et les conférences, pour ne résoudre rien du tout. Moi j'ai résolu le problème qui veut de la guerre la suppression, en me basant sur le système de l'internationalisation. Par exemple, dans ma famille, j'avais 8 sœurs qui étaient 8 filles, qu'on n'arrivait pas à caser. Eh bien, mon père vient de les marier. Ma sœur Noémie, un Hidalgo. Ma sœur Pucherie, un Arbico. Ma sœur Eulalie, un Espagnol. Ma sœur Euphémie, un grand Mongol. Ma sœur Euphrasie, un Écossais. Ma sœur Nastasie, un Javanais. Ma sœur Eugénie, un Suédois. Et la grosse Julie, un Iroquois. Et ça formera l'embryon de l'internationalisation. Dans 9 mois, ces petites familles, comme leur sang sera régénéré, auront sûrement 8 autres filles d'un tempérament bigarré. Et ces filles feront comme leur mère, dès que l'âge le leur permettra. De très bonne heure, car les rosières se marient jeunes dans ces races-là. Mais pour respecter ma tactique, elles choisiront leur pratique, chacune dans une autre nation. Donc voici l'énumération. Celle de Noémie prendra un Chinois, celle de Pulchérie prendra un Danois, celle de Lali prendra un Anglais, celle de Fémie un Martiniquais, celle de Frasie prendra un Roumain, celle d'Anastasie un Américain, celle de Génie un Sénégalais, celle de la grosse Julie un petit Congolais. Ce sera la seconde génération de l'internationalisation. Naturellement, ces mariages se font partout réciproquement. Jaunes et noirs, blancs et sauvages se mélangeront maritalement. Les gosses changeront de territoire et en feront d'autres un peu partout. Ce qui fait que dans la prochaine histoire, il n'y aura plus de peuple du tout. Et comme on ne s'y reconnaîtra guère, ce sera ma cache pour faire la guerre. Car de mes sœurs, 3 fois maman, voici ce que seront les enfants. Ceux de Noémie, franco-italiano-chinois. Ceux de Pulchérie, arbicoto-franco-danois. Ceux de Lelali, franco-anglico-espagnol. Ceux de Lefémie, martinico-franco-mongol. Ceux de Euphrasie, écosso-franco-roumain. Ceux d'Anastasie, franco-javo-américain. Ceux de Eugénie, suédo-franco-sénégalais. Ceux de la grosse Julie, rocco-congolo-français. Vivement qu'on la mette en action, l'internationalisation.
Demain, 1er mai, ça c'était une version italienne à Rome, je crois, on avait enregistré cette internationale. On va finir avec une petite perle qui date de ces années 1930 pour préparer ce 1er mai, pour préparer ce week-end que je vous souhaite très doux. Mireille, Jean Sablon. Fermé jusqu'à lundi.
C'est prêt ?
Oui, je t'en mets mon chapeau, un peu de poudre et je suis à vous.
Bonjour, faites-vous, tu fais si beau.
9, 10, 10.
11, 12,
midi.
Pendant toute la semaine, enfermé dans le bureau, on attrape la migraine, on travaille beaucoup trop. Mais la fin de la semaine s'amène, on dit ça n'est pas trop tôt. Quand on a pris tant de peine de prendre un peu de repos, lorsque l'horloge sonne midi, midi, au bureau plus personne, personne jusqu'à lundi.
Et si l'on téléphone, bah tant pis, tant pis, le patron, la patronne, tout le monde est parti.
Michel est à la pêche,
Lulu chez des amis,
et Robert se dépêche
d'aller retrouver Mimi.
On a mis sur la porte avis, avis,
aux raseurs de toutes sortes,
fermés jusqu'à lundi.
Tous les jours, le chef comptable me fait sans en avoir l'air.
Quoi donc ?
Un peu de pied sous la table, et ça me tape sur les nerfs.
Oh, par exemple.
Lorsqu'il me dicte une lettre, en faisant le plaisantin.
Oh,
je ne sais plus où me mettre, mais le samedi matin, lorsque l'horloge sonne midi, midi, il me dit ma petite mignonne, n'est-on jusqu'à lundi ? Je réponds mon vieux bonhomme, merci, merci, mais pour voir votre pomme, toute la semaine me suffit. Non, vraiment, je regrette, mais vous voyez là-bas, mon amoureux me guette. Et je vole dans ses bras. Oh, il est jeune, il m'emporte chez lui, chez lui.
Chérie, je vous emporte chez moi jusqu'à lundi.
Mon amoureux me guette, je vole dans ses bras.
Ce sont deux jours de fête dans la petite maison là-bas.
On a mis sur la porte avis, avis, aux raseurs de toutes sortes,
fermés jusqu'à lundi.
Ah oui, mais elle date de 1899, celle-là. Oui, on entend plus les gratouillis que le chant, mais quand même, hein, c'est un document qui donc a, eh ben, 105 ans. Merci à tous pour cette préparation et ce 1er mai et ce joli mai. Merci à Sylvie Gravagna, merci à Pierre Baron. Technique aujourd'hui, Anne Le Guénec et Pascal Baldassari. Coyen Nguyen, Pascal Pascariello, Christophe Imbert, c'est l'équipe de la Basse si j'y suis. Numéro du répondeur de la Basse si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission. Modeste, génial.